Merci d'être avec nous sur RFI. Il est maintenant 10h, temps universel, 11h, ici à Paris. Bonjour.
Charlotte Hydrac.
Un mélange de joie, d'espoir, mais aussi de prudence et d'angoisse après l'accord annoncé entre Israël et le Hamas. Il prévoit notamment un cessez-le-feu à Gaza à partir de dimanche et la libération d'otages. Mais le gouvernement israélien accuse déjà le Hamas de remettre en cause certains points. À suivre aussi la nouvelle opération de l'OTAN en mer Baltique pour protéger les câbles sous-marins après des sabotages en série. Un premier test pour le gouvernement Bayrou en France sous le coup d'une motion de censure cet après-midi, mais cette fois sans les voix du Rassemblement national. Les socialistes, eux, hésitent encore. Et puis la visite du président angolais à Paris avec d'importants contrats en vue dans le domaine de l'eau, notamment, et des satellites. Oui, quelques heures après l'annonce de l'accord pour un cessez-le-feu à Gaza, le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou accuse donc le Hamas de remettre en cause certains points et de provoquer, je cite, « une crise de dernière minute ». Le gouvernement israélien qui doit encore donner son feu vert à cet accord qui prévoit trois phases. Alors pour résumer, un, le cessez-le-feu à Gaza à partir de dimanche et la libération de centaines de prisonniers palestiniens en échange de celle de 33 otages israéliens. 2. La libération des otages restants et le retrait complet des forces israéliennes de Gaza. Enfin, 3. La restitution des corps des otages tués et un plan de reconstruction pour le territoire. Perspective qui semble encore très lointaine. Pour l'heure, cet habitant de Deir al-Abba, dans le centre de l'enclave, attend déjà l'entrée en vigueur officielle de la trêve. Louaï, joint dans la nuit par Sami Bourlifa.
Il y a 1,5 million déplacés ici à Deir el-Bala et dans la zone humanitaire. On est en pleine nuit et les gens sont toujours dans la rue pour célébrer cette annonce de cessez-le-feu. Vous savez, on n'a pas d'électricité, donc les rues ne sont pas éclairées. La majorité des gens n'osent pas encore sortir pour célébrer ce cessez-le-feu. Le danger est toujours là. Le cessez-le-feu a été annoncé, mais on ignore l'heure précise de son entrée en vigueur. Donc, je présume que la guerre n'est toujours pas finie. Et d'ailleurs, nous entendons toujours des explosions au loin, probablement les Israéliens qui continue à viser certaines cibles.
Et d'ailleurs, à Gaza, la défense civile a annoncé la mort de 73 personnes dans des frappes israéliennes depuis l'annonce de cet accord de trêve qui reste très fragile. Pour les proches des otages israéliens retenus à Gaza, c'est un mélange entre espoir et angoisse, entre ceux qui doivent être en principe libérés dans la première phase et les autres. Témoignage d'une famille d'otages à Bounner, recueillie par Michel Paul à Jérusalem.
Une émotion indescriptible, la famille Charabi a perdu 4 des siens depuis le 7 octobre et elle attend maintenant le retour d'Eli, le seul survivant présumé. « Nous ferons tout pour le récupérer », affirme Sharon, son frère.
Tout d'abord, c'est un moment très intense de l'histoire du pays après un périple très long, éprouvant et exténuant de pratiquement 16 mois. Ce n'est pas seulement un événement privé de notre famille, c'est une célébration pour tout le peuple israélien.
Originaire d'Irak, Shlomo Mansour, 86 ans, est le doyen des otages. Sa sœur Adassa se dit remplie de foi et d'espoir.
Nous sommes en plein déluge d'émotions. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Tant que nous ne voyons pas Shlomo ici, que nous ne pouvons l'embrasser, je ne pourrai pas me calmer.
Et malgré l'émotion qui est intense, la prudence est de rigueur, car tout le monde le comprend, en particulier les familles d'otages. Il s'agit d'un accord d'une très grande fragilité. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et plusieurs personnalités de l'extrême droite israélienne ont critiqué cet accord avec le Hamas. Benjamin Netanyahou lui avait remercié hier soir le président américain sortant Joe Biden et son successeur Donald Trump, dont les équipes ont travaillé ensemble pour parvenir à un consensus. Parmi les otages détenus à Gaza, 2 franco-israéliens. Il n'y a pas de certitude sur leur sort. C'est ce que dit ce matin le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. A noter aussi, au lendemain de cet accord, la compagnie aérienne Lufthansa annonce la reprise de ses liaisons avec Tel Aviv en Israël à partir du 1er février. Cet accord trouvé, ce n'est pas un hasard, quelques jours avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est donc la nouvelle administration américaine qui suivra l'application du cessez-le-feu. Joe Biden, lui, s'est adressé une dernière fois aux Américains hier soir, un discours d'adieu très sombre après après 4 ans de mandat. Le président sortant a mis en garde contre une oligarchie, dit-il, la concentration du pouvoir aux mains de très peu de personnes ultra riches. Allusion évidente, mais sans les nommer aux richissimes patrons de la tech, Elon Musk en tête. Selon Joe Biden, les Américains sont ensevelis sous une avalanche de désinformation qui permet, je cite, l'abus de pouvoir. Ce changement d'administration à Washington et l'Ukraine qui craint un désengagement américain dans la guerre contre la Russie. L'armée ukrainienne affirme dans un communiqué avoir capturé 27 militaires russes dans la région de Koursk. Parallèlement, le Premier ministre britannique est lui arrivé ce matin à Kiev. Keir Starmer et le président Zelensky doivent notamment signer un accord en matière de sécurité pour une durée de 100 ans. La sécurité en mer Baltique où des sabotages présumés se multiplient. Plusieurs câbles sous-marins de télécommunications et d'alimentation électrique ont été endommagés ces derniers mois. Pour y faire face, l'OTAN lance une nouvelle opération. Elle est baptisée Baltic Sentry, Franck Alexandre.
Alexander Stubb, le président finlandais, a donné le ton. Les vacances de l'histoire, a-t-il lâché, sont terminées. En mer Baltique, l'OTAN montre désormais les muscles. Avec la mission Baltic Sentry, menée par les pays riverains, elle réunit 10 navires de guerre, dont 3 suédois, pour surveiller les activités sur, mais aussi sous la surface de la mer. C'est donc la fin d'une longue période de léthargie où des choses étranges se produisaient en Baltique. Ces 2 dernières années, plusieurs dizaines de câbles sous-marins y ont été endommagés et à chaque fois, la flotte fantôme russe, avec ses bâtiments hors d'âge sous pavillon étranger qui permettent de contourner les sanctions, est pointée du doigt. Sauf qu'aujourd'hui, plus personne ne croit à la thèse de l'accident, toujours le même, celui d'une ancre oubliée dans les fonds et responsable de la casse. Face à cette inflation d'incidents, l'OTAN choisit d'occuper la Baltique là où passent les câbles stratégiques et elle prévoit déjà la suite, une flotte de drones de surveillance pour assurer une permanence à la mer.
En France, moins d'un mois après sa nomination, le gouvernement de François Bayrou, sous la menace d'une première motion de censure à l'Assemblée cet après-midi, un texte déposé par la France insoumise, mais cette fois, les députés du Rassemblement national ne devraient pas la voter, donc le texte ne devrait pas être adopté. Quant aux socialistes, qui comptent 66 députés, ils hésitent encore. Une réunion hier n'a pas permis de trancher leur position, le PS sous pression de ses alliés du Nouveau Front Populaire. Le président Emmanuel Macron, lui, reçoit son homologue angolais, João Lourenço, en visite d'État en France, aujourd'hui et demain. L'Angola va bientôt prendre la présidence de l'Union africaine. Cette visite va donc permettre d'aborder les sujets régionaux, en particulier la situation dans les Grands Lacs. Elle aura aussi une forte tonalité économique avec la conclusion de contrats et de financements dans les domaines de l'eau ou des satellites, Claire Fage.
La visite de João Lourenço en France devrait être l'occasion d'annoncer un contrat important avec l'entreprise française Suez dans l'assainissement, le traitement des eaux usées en Angola. Un financement doit aussi être conclu avec la banque française Société Générale pour l'achat par l'Angola d'un satellite Airbus d'observation de la Terre qui sera fabriqué à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Il s'agit de cartographier les ressources angolaises en pétrole, en minerais, mais aussi en eau pour l'agriculture. En projet également, un contrat de fourniture d'un hôpital ophtalmologique dans la capitale angolaise. La France souhaite accélérer la diversification de ses investissements, archi-dominés par les activités pétrolières. Cela rejoint le désir des autorités de Luanda de diversifier l'économie angolaise. Pour développer l'agriculture, un accord préliminaire devrait être signé avec l'Agence française de développement sur un énorme projet d'irrigation, tandis que la coopération se poursuit pour reconstituer une filière café. Les discussions porteront également sur le corridor jusqu'au port angolais de Lobito, projet d'infrastructure majeure pour acheminer les minerais congolais et zambiens vers l'Atlantique, que la France encourage au même titre que ses partenaires européens et américains.
Le président Lourenço qui participera demain à un forum d'affaires à Paris. Et puis mission réussie pour New Glenn, la nouvelle fusée de l'entreprise spatiale américaine Blue Origin, la société de Jeff Bezos, fondateur du groupe Amazon. Elle a mené aujourd'hui son premier vol en orbite. Elon Musk, qui domine en ce moment le marché avec SpaceX, a félicité son rival. Tout de suite, on vous retrouve, Emmanuel Bastide, pour 8 milliards de voisins. À tout
Merci
à l'heure.
Merci, Charlotte Idrac.